Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, saison 2, épisode 9. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
En forme aujourd'hui. Je vais pas faire des gestes
alors
comme
que
ça.
Je viens de bailler.
Tu viens de bailler, c'est ça. Mais pourtant, non, ça va, on est en forme. Il fait beaucoup plus beau que la semaine passée. C'est parce qu'on a un point météo en chaque début d'émission, comme vous le savez.
Non. Météo.
Ah, ouais.
Alors, il fait grand ciel bleu à quelques petits nuages, c'est des cirrus et des cumulonimbus aussi.
Un voisin à poil. Pardon.
En même temps, au moment où on terminera l'enregistrement, il fera noir.
Ah oui, il fera bien noir. D'ailleurs, il faut déjà penser à allumer peut-être les lampes. Je ne sais pas.
C'est l'hiver.
Hein ? Peut-être
c'est le nord.
C'est le nord. Aujourd'hui, on a un sommaire un peu particulier puisqu'on a des films, on va le dire tout de suite.
On a des films ?
Oui, on a des films et on a aussi des news. Hein ?
Et grosse semaine de news. Hein ?
Il y a pas mal de news. Il y a plus de news que de films cette semaine.
Je me suis lâché, j'ai mis tout ce que j'ai trouvé.
Bah oui, c'est bien. On a une semaine avec des films, on va dire, plus discrets. Hein, bon, entre plusieurs grosses sorties, on a, je crois que c'est le nouveau, Les Animaux Fantastiques. Donc, Les Crimes de Grindelwald qui arrive la semaine prochaine.
Ouais.
On a eu Casse-Noisette la semaine passée. D'ailleurs, on va un peu en parler à la fin de cette émission-ci parce que tu as été le voir. Et donc on pourra en discuter avant la sortie en France puisqu'on est presque un mois avant la sortie en France, donc
ouais.
On a cette exclusivité en Belgique de pouvoir vous parler de ce film.
Bah oui, attendu parce qu'on ne pouvait pas, parce que on pouvait pas en parler jusqu'à après la sortie belge, donc enfin bref,
exactement.
Truc compliqué, et donc j'ai été le voir quand il est sorti, voilà.
Donc dans Cinécast, on brise les tabous, on sera là, on va en parler de Casse-Noisette, ce film.
Sans concession.
D'autres films, il y en aura Un amour impossible, on en avait déjà un tout petit peu parlé au Festival international du film francophone de Namur. C'est un film basé sur la jeunesse et surtout les parents de Christine Angot, l'animatrice préférée de Thibaut. Tu aimes bien Christine Angot, toi ?
Je ne regarde absolument jamais On n'est pas couché.
T'as même pas une vidéo sur Facebook ou YouTube qui est apparue dans ton fil d'actualité ?
Ça arrive, mais en général, déjà, quand je vois...
On n'est pas couché, tu nous zappes, c'est ça ?
Ouais.
Lazzaro Felice, c'est un film qui était à Cannes également, donc c'est aussi oui. Un film qui remonte un petit temps. On a le film tourné en grande partie en Belgique. D'ailleurs, tu n'as pas été figurant dans ce film.
Si, mais on va passer ça sous silence.
Le film Koursk de Thomas Vinterberg qui a été tourné en Belgique avec Colin Firth et Mathias Konartz. Ce qui raconte le naufrage. Le naufrage du sous-marin russe du même nom, sous-marin nucléaire. Ensuite, on va parler de Overlord, un film que tu aimes bien, ton style. Hein. Ça pourrait être le bif déjà aujourd'hui en parlant de ce film. C'est quoi ? C'est un truc avec des monstres ou des...
Avec des zombies.
Des zombies.
Enfin, des espèces de zombies. C'est pas tout à fait des zombies, mais c'est des espèces de zombies.
Tout un programme.
Oui, je t'en dirai plus après.
C'est ça, on commence l'émission par notre bon vieux box-office qui n'a pas beaucoup changé par rapport à la semaine passée pour la simple et bonne raison que Le Grand Bain est toujours premier. Et c'est tant mieux, hein, disons-le tout de suite. Avec de nouveau plus d'un million d'entrées pour son deuxième week-end. Donc ça veut dire qu'il fait plus ou moins le même score que la semaine passée. La semaine passée, on était à 1 200 000, mais j'ai vu d'autres chiffres qui disaient 1 400 000, donc... Bon, bref, entre 1 200 et 1 400, maintenant il fait 1 150 000 entrées, donc moins 20% seulement par rapport à la semaine précédente.
Petite baisse.
Ce qui fait en sorte qu'il va bientôt atteindre les 3 millions d'entrées en France, ce qui pourrait doucement le mettre dans le classement des films qui ont dépassé les 5 millions.
Bah, ce serait bien que ce soit ce film-là qui obtienne, j'allais dire gagne, mais non, c'est pas un... tu gagnes pas. Qui obtienne le César du public, tu vois, le fameux César.
Je ne pense pas.
Parce que là, pour l'instant, c'est qui
Les Tuches, c'est les Tuches. La Petite Famille.
Ouais, oh les deux. Là là.
Et avant de dépasser la Petite Famille, il faut y aller. Hein. Il faut quand même faire le 6 millions d'entrées, à mon avis.
Ah ouais,
Donc, c'est Danny Boone qui va recevoir le prix, à mon avis.
Encore. Enfin, encore, je ne sais pas si c'est lui qui l'a vu l'an dernier. Si,
c'est et c'est lui. Olivier Barou, l'autre. Hein,
des Tuches, oui.
Ben voilà. C'est soit Danny, soit Olivier Barou, soit Gilles, si le grand main continue à avoir ce bouche à oreille favorable.
En même temps,
c'est possible.
Ce prix n'a ni queue ni tête, n'a aucune raison d'être. Hein. Mais enfin, bon, soit.
Bah, c'est le prix du film Popcorn, Popcorn et Coca-Cola. Quoi,
oui, mais pourquoi donner ce prix
C'est si, parce que
si le film qu'il gagne a déjà été le champion du box-office. Est-ce qu'il a besoin d'avoir une reconnaissance en plus
Non. Parce qu'apparemment, la vente de tickets reflète une certaine qualité. dans l'industrie du cinéma. C'est, pardon, si ça vend, c'est que ça plaît. C'est souvent ça l'idée. Mais non, c'est pas vrai. Hein. Il y a des films qui vendent, mais qui sont à chier.
Bah oui, disons-le.
On pense notamment, il y a un film qui vend très bien pour l'instant, mais qui pourtant n'est pas bon. C'est Venom. Hein. Oui, c'est Venom qui continue de faire des scores de malade. Donc...
Tristesse absolue.
Deuxième film, c'est Yeti et compagnie, qui réalise exactement le même score que la semaine passée. C'est quand même très marrant. Donc 685 000 entrées. Bon, là, la semaine passée, c'est 680. Donc, progression de 0, et quelques. Donc, on l'a aussi à 1,7 million d'entrées. Donc, ça marche bien. Bohemian Rhapsody, c'était un nouveau film dans le classement qui fait 650 000 entrées, qui est quand même un bon score en France pour un biopic, donc c'est pas mal du tout.
Un mauvais biopic.
Oui, oui. Bon. Un bon score en France pour un mauvais biopic, c'est ça ?
Voilà, c'est mieux.
Pas si mauvais que ça, quand même. On en a discuté, c'était pas...
Oui, mais...
C'était pas fou, mais c'était un peu trop conventionnel, on va dire ça comme ça.
Ouais, mais il y avait quand même des erreurs en plus, bref.
À la 2. Il est toujours en top 5, 395 000 entrées.
As-tu une bonne nouvelle à annoncer dans ce box-office?
Allez, le grand bain du Lelouch, c'est pas mal. Il a dépassé Aladdin, à la 2, pardon, puisque Aladdin est à 2,5 millions d'entrées bientôt. Donc, ouais, gros score aussi. Hein. En Liberté, réalise son entrée, 5e place, 330 000 entrées pour En Liberté. C'est pas terrible, mais ça reste pas mal pour une comédie vachement moins marketable, on va dire, que le grand bain ou autre bêtise. Et sixième, c'est le jeu, hein, le jeu qui avait réalisé un bon démarrage, mais qui n'a cessé de chuter. Faut dire, bon, le jeu a un casting qui est moins sexy que Le Grand Bain, et c'est un film aussi un peu moins sexy.
Je ne suis pas d'accord.
On commence cette émission, non. Ça commence très mal.
Oui, mais non.
Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde. Là, je continue la liste.
Oui.
Et de l'autre côté, t'as quoi, Stéphane de Groot?
Mais... Alors, t'as Stéphane Legros,
j'aime beaucoup Stéphane Legros, le problème n'est pas là.
Il y a Roche Dizem, il y a Vincent Elbaz, non, je ne suis pas d'accord.
Ok, bah alors le clash des castings, des films chorales, j'oublie toujours, c'est chiant.
Les films chorales,
le clash des films chorales, c'est le jeu qui est en train de le perdre, puisqu'il est à 1,1 million d'entrées contre 2,6. Mais le budget est de 8 millions, hein, pour le petit comparaison, et Le Grand Bain, c'était presque 20 millions de budget, du coup, c'est...
Oui. Donc le jeu est quand même plus rentable. Hein. Et petite précision, box-office belge cette fois-ci,
oui.
Girl a passé les 100 000 entrées, ce qui est énorme.
Pour la Belgique, c'est énorme. Oui.
C'est énorme. En France, il a fait un peu plus de 200 000 pour l'instant, donc c'est-à-dire que la Belgique fait moitié moins, avec 6 fois moins d'habitants.
1% des Belges ont vu Girl. Hein. C'est ça,
voilà,
c'est
en gros. Constat. En gros.
Ce qui n'est pas assez.
Enfin, t'as dit quoi? T'as dit combien de
pourcents? 1% des Belges.
1%, oui. Oui, on va dire ça.
Vu comme ça, c'est moins sexy. Hein. 1% ouais. Des Belges ont vu Girl. Ah merde, tu vois.
Ouais, mais bon.
Tu te dis merde. Mais bon, c'est pas mal. Pour aller au cinéma aujourd'hui, ça devient rare. Hein. Sortir sa voiture ou aller en métro au centre-ville, payer 10 euros ton truc, 5 euros ton parking. Et encore, je suis gentil.
Enfin bon, rentrons dans le vif du
sujet. Là n'est pas le débat. Rentrons dans le vif du sujet. Un film qui va vous donner envie d'aller au cinéma pour une bonne raison. Il y a Virginie Efira au casting.
Ah, oui.
Non, à côté de ça, il ne donne pas spécialement envie d'y aller, mais il vaut la peine. C'est Un amour impossible. Je me le disais en début d'émission, on en a un tout petit peu parlé à Namur. Il s'agit donc du film qui raconte la jeunesse et surtout les parents de Christine Angot. Et plus particulièrement le harcèlement moral et même physique qu'il y a pu avoir dans la famille, puisque le père de Christine Angot est assez est réputé pour l'avoir en tout cas violée, et pour avoir été très violent moralement, psychologiquement envers sa femme.
Il avait une grosse emprise.
Oui, c'est ça. Donc un grand manipulateur pervers, on peut dire ça comme ça.
Un pervers narcissique.
Tout à fait. Et donc le film se base non pas uniquement sur ces faits-là. Hein. On a vraiment toute la vie de Rachel, qui est donc la maman dans ce cas-ci, dans les années 50, qui est employée de bureau et qui tombe amoureux de cet homme, hein, Philippe, qui est brillant, qui parle bien, qui a un diplôme. Enfin, c'est pas moi, quoi. Et... Oh, c'est bien, belle analyse.
Pas mal.
Mais je suis pas comme lui du coup. il veut pas se marier par différence sociale et tout, mais il va continuer à aller voir cette femme de temps en temps et lui rendre visite, lui écrire et la voir un peu sous son aile, on va dire ça comme ça. Et il lui fait quand même une fille, enfin un enfant, qui s'avère être une fille. Et puis au fur et à mesure, leur relation va évoluer et ça va arriver à ce fameux drame qu'on connaît tous maintenant. Donc, ce film raconte énormément de choses. par où est-ce que tu voudrais commencer, Thibaut? Quelle est la première chose que tu voudrais dire, pardon, sur Un amour impossible?
Qu'il n'est peut-être pas, et je pense qu'on a dû le dire quand on était à Namur, il n'est peut-être pas le film que les gens pourraient penser qu'il est.
Ça, c'est sûr.
Quand on voit son affiche, notamment, on pourrait penser à une petite comédie romantique gentillette.
Même la bande-annonce, j'ai dû faire un montage l'autre jour de la bande-annonce, et c'est vrai que dans la bande-annonce, il nous montre tous les côtés très positifs de la vie de couple. Hein. Donc on voit un homme et une femme se balader près d'un lac, on voit un homme et une femme sur un carrousel, tu vois, le truc très positif de manière générale, mais le film, en fait, ne va pas dans cette direction.
Mais non, parce que le personnage de Philippe, en fait, c'est quelqu'un qui est quand même fort absent. C'est-à-dire, il a une certaine vision de la vie, et il faut que le partenaire ait exactement la même, soit exactement dans le même... dans le même moule, et dès que ça ne convient pas, ben en fait c'est il fuit ou en tout cas il ne s'implique plus comme il a pu s'impliquer auparavant. Donc forcément c'est une relation qui ne peut pas marcher, qui est impossible.
Merci Thibaut.
Merci, c'est gentil. Et donc voilà, dès le début on sent que toute cette histoire ne sera pas une histoire d'amour classique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément d'amour. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a tout le temps de l'amour non plus. Donc c'est vraiment une relation amour-haine assez particulière et qui va se compliquer d'autant plus quand l'enfant sera né. Voilà. Donc c'est une histoire que j'ai trouvée assez intéressante. C'est difficile après de dire non, c'est pas intéressant, machin. C'est la vie de quelqu'un quand même, donc
c'est un peu long à dire, je trouve.
Oui, c'est un poil long parce qu'il fait 2h20, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est,
c'est long.
On plaisantait, quand on a été voir le film, on disait ouais, c'est 2h30 en trilogie. Finalement, quelqu'un a dit ah non, c'est vraiment 2h20. On s'est dit ah bon, 2h20 sur une histoire d'amour.
Voilà,
non, mais c'est parce que comme tu le dis, c'est séparé en plusieurs morceaux. Hein. Donc, il y a en effet la jeunesse de Christine. Qui ne s'appelle pas Christine dans ce cas-ci. Hein. C'est Chantal, si je ne me trompe pas. Oui, Chantal.
Oui.
Et donc, la jeunesse de Chantal, mais on voit aussi à un moment donné où Chantal est plus âgée. Et là, elle ressemble très fort d'ailleurs à Christine Angot vers la fin du film.
Ah oui, la comédienne qui l'interprète, c'est assez bluffant. Mais d'ailleurs, dans le choix des comédiens, je trouve qu'il est plutôt pas mal dans l'ensemble. Des petites réserves quand même. Au début, c'est donc Virginie Fira qui joue le personnage tout le temps. Hein. Le personnage de la mère, elle l'interprète de sa jeunesse à la vieillesse. Mmh. Alors bon, sachant qu'elle a passé la quarantaine, quand elle doit jouer une fille de 20 ans, c'est un peu... Bah, t'y crois pas trop, quoi. Hein. Très honnêtement,
donc
tu
dis
pas...
Elle a un corps de femme qui a... Bah, elle a un corps de femme,
c'est,
quoi.
C'est quand même difficile de la faire passer pour une fille de 20 ans quand on a 22 plus. Alors bon, exactement. Tu te dis, ah, t'as 20 ans, machin... Voilà, petite réserve. Hein,
ce qui n'est pas encore trop gênant, je trouve.
Ce qui n'enlève rien à la prestation générale de Virginie Fira, qui est évidemment très bien. Mais c'est assez particulier parce que du coup, la majorité du temps, de l'époque durant laquelle elle va jouer, son personnage a une trentaine d'années. Ça va jusqu'à la quarantaine quasiment, mais ça s'arrête un petit peu avant la quarantaine. Mmh. Et donc en fait, elle joue quasiment jamais la période de l'âge qu'elle a réellement en tant que... Voilà, Virginie Fira, 40 ans. Elle joue très peu une femme de 40 ans dans le film, parce qu'après, elle va rejouer une femme qui en a 70, quelque chose comme ça, 60, 70. Une personne plus âgée, du coup. Elle est assez bien maquillée, il faut le dire.
Hein. Oui, oui.
Et donc, voilà, c'est quand même assez particulier par moment, je trouve, comme choix. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'elle s'en sort très, très bien, Virginie Fira. Et Nils Schneider... On le voit moins, forcément, vu que c'est un personnage plus absent.
Mais quand on le voit, quoi. C'est que tu...
Ouais, il a un faciès assez... Tu l'imprimes, tu...
Oui, et puis même, au-delà de ça, il est très, très crédible dans ce rôle de d'homme manipulateur, intelligent, qui,
Il fait passer beaucoup de choses avec son regard.
Utilise cette jeune femme qui n'est pas, entre guillemets, d'un milieu aisé pour vraiment la manipuler, lui faire croire des choses et après commencer à violer sa fille. Ouais, il est vachement crédible là-dedans. Et moi, il m'a un peu glacé le sang, d'ailleurs. Quand on l'a vu, on l'a aperçu à Namur, j'avais encore envie de le taper, quoi. Alors que ça reste un film, hein, mais tu dis, mais ce type, c'est ta claque, quoi. Mais juste parce que dans le film, il arrive très bien à nous transmettre cette espèce de... Ces gens qui vous veulent du bien, mais qui vous veulent du mal en même temps. Et c'est, ouais. C'est assez intéressant comme personnage.
Bah, ça fonctionne très bien dans le film. Faut dire ce qui est.
Tout à fait.
Alors après, très honnêtement, je suis pas hyper enthousiaste non plus. Ça m'a pas mis une claque, malgré la gravité du sujet. Mais ça remet quand même un peu les choses en perspective, ce genre d'histoire, c'est sûr.
Bon, mon opinion était un peu faussée, parce que quand j'avais été voir le film, je pensais honnêtement qu'on allait tomber dans une comédie romantique ou juste un film d'amour, quoi. Et donc j'ai pris une claque quand j'ai vu le film, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et c'était assez troublant, il faut le dire. Maintenant que je connais le concept du film, où est-ce qu'il se situe, qu'est-ce qu'il veut représenter, etc., je pense qu'il aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux fait, mieux raconté. Par exemple, l'histoire se passe beaucoup du point de vue de Rachel, alors que le point de vue de l'enfant est très intéressant également, voire même peut-être plus intéressant. Vers la deuxième partie du film, hein, on commence à switcher en fait l'intérêt
c'est ça,
du film.
On va dire que c'est un film en deux parties.
Exactement, c'est un peu un film à la... Un gars comme Derek Si en France aurait pu se saisir du sujet et faire un truc différent. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le réalisateur de Blue Valentine, entre autres.
Ouais.
Pas mal ça, on va l'appeler.
Il est très sympathique d'ailleurs.
On va l'appeler. Ok, mais donc Un amour impossible. À voir si ce genre de drame familial, ce film un peu lourd, faut le dire, mais pas dénué de sens, vous intéresse. Qu'est-ce que tu donnerais comme cote ?
2.
2 étoiles, c'est ce que je me disais aussi en démarrant cette émission, donc ça me paraît bien payé du coup. On est tous les deux du même avis.
C'est pas bien.
Non, mais pas bien payé dans le sens bien payé, on est très gentil. Je dis juste bien payé, c'est juste. Enfin, c'est juste prix.
C'est juste prix. Disons ça comme ça.
C'est juste prix. Pour Un amour impossible, 2 étoiles. On entre tout de suite aussi dans les news, puisqu'il y a pas mal de trucs qui ont fuité cette semaine, dont une chose très importante. Est-ce que Avatar aura toujours le font Papyrus ou pas pour ses prochains... T'as pas vu ?
Je faisais une blague.
Voilà.
Oui.
Je ne sais pas si vous connaissez le sketch avec Ryan Gosling qui joue un designer qui ne peut pas dormir parce qu'il a remarqué que sur le poster d'Avatar, c'était le logo Papyrus. Et donc, il a juste été dans Word et il a pris Papyrus et il a écrit Avatar. Et ça le rend fou. Et donc, il essaie de chasser l'homme qui a fait ça. C'est une fausse bande-annonce à voir sur YouTube. Je vous invite à le faire. C'est très, très drôle. Donc, il sera question d'Avatar. Vous avez bien compris le sens de la blague, puisque on en avait déjà parlé, il y a Avatar 2, 3, 4 et 5 en production. Le tournage du 2 et du 3 est terminé, donc on commence le 4-5. Hein. Je suppose qu'ils tournent les deux en même temps. Enfin
les 4
en même temps, mais ils ont une petite pause entre les deux, voilà, je pense. Hein. Il y a quand même un peu de vacances pour James.
Je n'en suis pas certain.
Mais pas certain, carrément. Par contre, on a eu les titres. Hein. C'est ça qui est important dans cette news.
Titres non officiels, au conditionnel. Hein. Ce sont peut-être des titres de travail.
Pendant que
un film est en production, les titres changent parfois.
Après. Maintenant, soyons très clairs, James Cameron avait déjà dit qu'il souhaitait aller plus loin dans la technique pour le prochain Avatar. Et c'est pour ça qu'il avait attendu autant de temps, parce qu'il dit « je veux qu'il y ait une différence entre Avatar 1 et le 2 ». Déjà, visuellement, techniquement, il faut que ce soit beaucoup plus avancé. Il parlait même d'un film 3D sans lunettes. Je vois mal comment il peut faire un truc pareil, mais bon, c'est possible, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il a dit plusieurs fois que le 2 se passerait, ou en tout cas, il y aurait beaucoup d'eau. Oui. Parce qu'il sait que techniquement, c'est le plus compliqué en termes d'effets spéciaux, c'est l'eau. Et c'est vrai que dans les jeux vidéo ou n'importe où, c'est souvent l'eau qui est un peu... Le rendu n'est jamais terrible. Et là, il voulait vraiment plonger dans le vif du sujet. D'ailleurs, Avatar 2 s'appelle « La voie de l'eau », « The Way of Water ».
Mais oui, c'est sympa le titre.
Donc c'est sympa et ça va tout à fait dans ce qu'il a dit. Donc c'est possible que ce soit un titre définitif pour le 2 puisque ça rentre tout à fait dans le créneau. Ensuite, après, on va être très franc avec vous, on n'a aucune idée de ce que ça signifie les autres titres parce qu'il y a Avatar de Seed Bearer, c'est le porteur de graines. Bearer. Avatar de Tulkun Rider, le cavalier de Tulkun. Non, il ne s'agit pas d'un pays au Moyen-Orient. Et Avatar de Quest for Aiwa. On ne sait pas où est Aiwa, on ne sait pas qui est le cavalier de Tulkun, on va le savoir, je suppose, dans le 2 ou le 3.
Non, 4-5.
Non,
ça
mais
sont les titres
si le 4 s'appelle le cavalier de Tulkun, je suppose que dans le 3, on aura vu le cavalier, on va se dire, j'ai hâte de voir le 4, tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas faire du hype non plus.
Bien sûr, un peu de teasing.
Un petit peu de teasing. Donc voilà, ça ne nous avance pas beaucoup sur le sujet, mais au moins, sachez-le, c'est pas du mythe. Il y a bien Avatar 2 et 3 terminé, le 4-5 entamé, et il y a des titres provisoires. Donc en gros, attendez-vous à voir Avatar entre 2020 et 2030 sur vos écrans tous les deux ans.
2020 et 2025, je pense. Hein. Donc ils vont...
En chaque année.
Bah quasiment. Bah ça fait 4 films.
C'est, hein. C'est qui produit Avatar? Fox?
C'est la Fox, je pense.
Disney, du coup, maintenant.
Oui, c'est Fox. Oui, du Disney, du coup, exactement.
Mais ils sont cons. Mais donc, ils savent qu'avec Star Wars, écoute, il ne faut pas en faire un tous les ans. Et maintenant, ils sont là, Avatar 2020, 2025, on les met tous.
Ouais, mais là, les gens sont hypés à fond.
Déjà, ils vont nous ressortir Avatar en version, ça c'est clair. Ils vont le ressortir au cinéma avant le 2.
Ça serait bien.
Bah, forcément.
Moi, je ne suis pas un énorme fan d'Avatar. Je trouve que c'est un peu surfait.
C'est un jeu vidéo, cinéma.
Même si... visuellement, etc., c'est bluffant. L'univers qui est créé, j'adore, par contre, je dois bien le dire. Mais le film en tant que tel, voilà.
C'est très basique, alors, hein.
C'est pas Pocahontas chez les Schtroumpfs.
C'est un baiser, quoi.
c'est un peu la phrase que tout le monde a dit, hein, Pocahontas chez les Schtroumpfs.
Non, mais ça, bon, oui, c'est ça, c'est simple.
C'est pas révolutionnaire.
C'est le Fortnite du cinéma.
Il y a un très beau discours écolo, etc., ouais. Sur les peuples. Il y a des choses intéressantes, hein, je dis pas, mais je trouve qu'on en fait vraiment beaucoup autour d'Avatar. Donc, je suis. D'un côté, j'en ai absolument rien à foutre des suites, et de l'autre, je suis quand même très très curieux.
Ouais,
donc,
mais c'est. On verra. Avatar a imposé pour sa technique, de nouveau, et c'est pour ça que les gens s'en rappellent. Hein, c'est parce que c'était un événement, quoi. Il y a Avatar qui est sorti au cinéma, c'est le film à ne pas manquer, parce qu'il a été tourné en Nouvelle-Zélande, tu sais quoi. Et il y avait toute une. Un marketing autour de ça, principalement. Ouais. Plus que l'histoire des queues qui se mêlent et qui forment des trucs, là. On a déjà oublié, d'ailleurs. est-ce qu'il y a toujours le casting de base ou pas?
Oui.
Oui. Ils vont rajouter 2-3 stars, je suppose, dedans.
Sais que Sigourney Weaver est toujours là. D'ailleurs, elle, en partie, qui a dit qu'elle avait terminé les 2 et 3 et qu'elle allait se lancer dans les 4 et 5. Donc, on sait déjà que Sigourney Weaver ne meurt pas dans le 2 et le 3, a priori. Mais alors le reste, je sais pas, j'imagine que Sam Worthington est...
Il doit être content lui, parce que ça il a du job maintenant, il est content.
Et je ne sais plus son nom maintenant à l'autre.
Il fait plus grand chose.
Ah mais c'est vrai que Sam Worthington, à part le film sur Freddy Heineken...
Donc il doit être super content, il dit enfin je bosse un peu.
Et un film où il faisait un braqueur... Allez,
il y a le choc des titans aussi, non?
On the ledge là.
Le clash des titans, je sais pas quoi.
C'est vrai. Bon, il a fait... 2-3 trucs passés plus ou moins inaperçus.
C'est Zoé Saldana qui joue avec
lui. Zoé Saldana, ouais, voilà, bien vu. Donc, je ne sais pas. Bon. Mais je suppose que oui.
Ça, c'était pour la news Avatar. Maintenant, il y a d'autres news de tournage en cours. C'est le film Corto Maltese. Maltese, allez. Qui est tourné par Christophe Gans.
Ouais, Christophe Gans.
Comme vous voulez.
Français.
Tout à fait. Tourné.
Qui adapte la BD d'Hugo Pratt.
Et tourné en anglais, hein. Pas en français pour ce coup-ci, avec Mila Jovovich.
Eh oui.
Bonne vie Mila qui est toujours là. Et là, par contre, c'est Tom Hughes qui va interpréter le personnage.
Ouais. Alors, j'ai un peu épluché sa filmographie. Il n'a pas fait grand-chose de connu, ou alors des petits épisodes de séries de temps en temps, ou des films jamais sortis chez nous. Je pense que le truc le plus connu qu'il ait fait, c'est Il était temps. Alors, je me souviens à peine du film, donc je ne peux absolument pas te dire...
Ça parle de quoi, Il était temps
était dedans.
Je rigole.
Non, on ne va pas se lancer là-dedans.
Et il y a qui dans Il était temps?
Le temps avance, hein, mais c'est ça.
Mais c'est pas mal, donc et tu peux m'en dire un petit peu sur l'histoire. Sur quoi est-ce qu'ils vont se concentrer?
Alors, a priori, c'est une histoire de... Enfin, Corto Maltese est engagé par un groupe de révolutionnaires chinois. Mmh. Et ils vont devoir détourner un train blindé de l'empereur russe Nicolas II et récupérer l'or qu'il transporte.
T'es sûr que c'est pas un western que tu me racontes?
De Saint-Pétersbourg à Vladivostok.
De Tchouli. Donc ça va être la grosse poursuite. Enfin, c'est le western. C'est pas mal.
Bah écoute, gros film d'aventure français en anglais.
Ça qui me fait peur. Un gros film d'aventure français, là en général, il met d'or qui grince un petit peu. Comédie,
qui
sait faire.
Qui sait?
Film encore... d'action. C'est un peu chaud parfois. Parlons tout de suite du deuxième film. Je crois qu'il est temps d'ailleurs.
Oui, parce que le temps
file. Oui, sinon on est ici, on a pas l'apéro. Deuxième film de la semaine, c'est Lazzaro Felice. Je ne sais pas si on le dit comme ça.
Oui.
Mais Lazzaro Felice, j'ai essayé de comprendre 50 fois de quoi parler ce film. Je n'ai jamais compris. Je vais être très franc avec vous et je ne l'ai pas vu non plus, comme vous pouvez l'entendre à mon étonnement. C'est l'histoire d'un jeune paysan d'une bonté exceptionnelle. Hein, je vous lis synopsis.
Jusque-là, t'es bien parti.
qui vit à l'Inviolata, resté à l'écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Et concrètement, en fait, si j'ai bien compris, c'est un paysan qui va un peu mettre un pied dans le monde moderne, ou en tout cas sortir de son milieu. C'est ça qu'il s'agit ?
C'est ça.
Ok, voilà.
C'est...
Je m'en suis sorti.
Tu t'en es sorti, oui.
Franchement, il y a plus simple comme synopsis.
C'est un peu tiré par les cheveux comme histoire.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, donc, le film est vraiment en deux parties. La première, ça se déroule donc, dans l'Inviolata. C'est vraiment un...
Un bled.
Un bled, un hameau. Où il y a... Enfin, c'est même pas un hameau, c'est une propriété où il y a une grande demeure ou un château. En tout cas, une belle, belle maison. Qui sont donc les maîtres du domaine, et il y a des granges, enfin une ferme, une baraque où il y a des paysans qui logent et qui sont ceux qui entretiennent le domaine et surtout qui font les récoltes, qui le font vivre, qui ramènent les ressources, et ils n'ont quasiment aucun contact avec l'extérieur. Mmh. Le seul contact qu'ils ont quasiment, c'est avec quelqu'un de la ville qui vient de temps en temps apporter des nouvelles, enfin voilà quoi. Donc, je ne sais plus si c'est un facteur, un avocat.
En gros, leur entrée vers le monde extérieur est très limitée.
Quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc, le jeune Lazzaro, c'est vraiment, c'est un peu un béné en fait, hein, presque quelqu'un de très très gentil. Et les gens en usent et en abusent. Il est candide, exactement. Et il va se lier d'amitié avec le fils de la patronne. Et alors dans le synopsis, j'aime bien parce qu'il y a une phrase assez particulière. Ils disent « Une amitié si précieuse qu'elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne. » Alors ça, c'est une explication très gentille pour dire que la deuxième partie se déroule dans le monde actuel.
Dans une ville ou un truc comme ça.
Mais ouais. Que le Lazzaro de l'époque sera toujours là.
Attends. Dans le monde actuel.
Actuel.
Donc, t'as Lazzaro à New York, c'est ça que tu es en train de me dire ou,
oui, c'est alors, quoi c'est pas les visiteurs, mais enfin, presque, si. C'est un peu ça.
Ok.
Voilà. Ça, c'est l'histoire. Mais si je commence à en dire plus, vraiment, ça n'a plus d'intérêt parce que c'est une histoire qui est d'apparence compliquée, mais les pas tant que ça. En fait, il y a un grand caractère fantastique à cette histoire. Mm-hmm. Qu'on comprend petit à petit, évidemment. Autant la première partie, c'est juste une histoire d'amitié, de la vie de l'Inviolata, ce qui est assez intéressant en soi, tandis que dans la deuxième, on bascule complètement dans autre chose. C'est un peu déroutant. Je pense pas que tout le monde accroche à ce genre de choses, mais c'est assez rare, les films de ce genre qui s'essayent à des choses comme ça, inattendues, qui vont là où on ne les attend pas, qui offrent des histoires et des relations intrapersonnelles qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et donc, alors, c'est d'autant plus intéressant que c'est un film italien, on n'est pas dans une grosse production, machin.
Ouais.
C'est un petit film d'auteur qui est en compétition à Cannes, donc... On est dans un cinéma un peu plus... dans un cinéma abouti qui n'est pas pour tous les publics, c'est sûr. C'est pour un public un peu plus averti, un peu plus... Enfin, qui recherche quelque chose de plus raffiné, peut-être plus complexe. Donc voilà, c'est pas du cinéma qui intéresse tout le monde, ça c'est sûr et certain. Et c'est pas un film qui va cartonner au box-office. Il y a aucun doute là-dessus.
Ouais, c'est pas là sa prétention, c'est pas là son objectif.
Mais non, voilà. Du tout.
C'est clair. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup ? Enfin, quelle est pour toi du coup la note que tu donnerais à Lazzaro ? Je peux pas te relancer là-dessus, je l'ai pas vu.
Je vais te dire deux aussi parce que même s'il y a beaucoup de choses que j'aime dans le film, ça m'a aussi un peu dérouté quand même. Et je l'ai pas adoré pour autant. Donc, mais c'est peut-être limite plus intéressant que si j'avais adoré ou si j'avais détesté, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait que ça m'arrive... Bon, c'est pas pas comme si je pensais au film tous les jours, hein, mais qui amène une réflexion, prendre un peu de recul sur les choses. Donc c'était clairement dans les films déroutants et particuliers de Cannes, et très franchement, peut-être que ça mérite une deuxième vision. Donc qui sait, peut-être irai-je le revoir.
Bref, un film qui n'a pas été qui marquant. Tu en penses encore et tu as envie de le revoir parce que ça t'a interpellé. Il faut dire, oui. Déjà, tu m'en as parlé, c'est déjà un peu interpellant et un peu particulier comme manière d'aborder une histoire. Donc, 2 étoiles pour Lazzaro Felice. Je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, que c'est 2 étoiles aussi pour Un amour impossible. On ne sait jamais que vous ayez avancé le podcast d'une demi-heure au moment de le lancer. Ça arrive. On reprend la partie news parce qu'il y a toujours des news, c'est incroyable. Avec une news qui me donne le sourire, mais
c'est un peu. Mais
reste à voir ce que ça va donner. C'est le Gladiateur 2, voilà, juste comme ça.
Avec le fait de le dire, c'est
oui, déjà c'est bizarre. Hein.
Le 1 est petit frisson comme ça.
Le 1 est tellement bon que tu te dis, mais pourquoi faire un 2, c'est tellement dangereux, c'est casse-gueule. Ici, ça va être centré sur Lucius, qui est le fils de Lucilla.
Et c'est te souviens-tu de qui est Lucilla?
Non, pas du tout.
C'est la sœur de Commode. Te souviens-tu de Commode?
Et c'est la fille de Marc Aurèle. Aurèle.
Marc Aurèle. Marc Aurèle.
Marc Aurèle.
Oui. Donc c'est le personnage de la sœur de Joaquin Phoenix.
D'accord.
Et donc c'est le fils de cette demoiselle.
Oui, oui, oui.
Voilà. Et il est...
Ils vont très loin hein, pour faire la suite, ils vont.
Mais écoute...
Le méandre de la famille.
Il va s'inspirer des actes de Maximus. Donc c'est un moteur pour lui, Maximus. Maximus qui était le personnage de Russell Crowe.
Oui, ça je sais qui c'est.
Petit rappel qu'on appelait l'Espagnol au début du film, tu vois.
Oui, voilà. Tout à fait.
Donc visiblement, les hommes en jupe avec des glaives...
C'est pas fini.
Ça inspire les garçons.
C'est pas fini de divertir et ça va continuer comme ça. Reste à savoir, je pense pas que le casting original... non. Mais écoute, personne du film original.
A priori, je suis circonspect, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Comme tu dis, est-ce nécessaire? Non.
C'est un peu comme s'il y avait 3-2. Quoi, tu
est-ce vois. Que ça peut être bien? Oui. Surtout que Ridley Scott, dès que c'est des films à costume avec...
c'est lui qui va le
avec
faire.
Avec de l'ampleur, etc., c'est son rayon, quoi. Alors oui, a priori, c'est lui qui le fait.
Ah, c'est pas un réalisateur de série ou un truc comme non. ça, genre le mec qui a fait Spartacus non, non. qui va se lancer au cinéma et...
Mais là, c'est un gars qui vient de faire des scénarios pour la Paramount. C'est Paramount qui va produire, qui s'y colle. Il a écrit, entre autres, Top Gun 2. Donc, qu'est-ce que ça vaut, Top Gun 2? Je ne sais pas encore.
Mais en fait, le mec est connu pour faire que des films à risque.
Mais Ridley Scott, il est doué pour ça, Gladiator. Tout le monde sait ce que ça vaut. Tout le monde sait que ça vaut beaucoup.
Ça vaut de l'acheter en Blu-ray.
Ouais. Il a fait aussi Kingdom of Heaven. Alors, autant ouais. certains ont beaucoup de choses à redire à propos de la version cinéma, autant la version longue, c'est un petit bijou. Donc, si Ridley Scott a... le final cut, machin, qui fait ce qu'il veut, ça peut être quelque chose de très très bien.
Ou de pas bon. On se rappelle de Prometheus, Alien Covenant, etc., etc. Surtout Prometheus qui était quand même un peu... Il avait le final cut et ça se voyait un peu trop.
Prometheus c'est meilleur que Alien Covenant. Hein,
oui, 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 oui. Plus traditionnel, Alien Covenant.
Quand tu vois Alien Covenant, tu réhabilites un peu Prometheus.
Et tu te dis, ah, mais peut-être revenir au truc bizarre avec un homme tout nu sur une cascade, ça serait pas mal. Pour
j'avais revu Prometheus avant Covenant, c'était pas si mauvais que ça.
Non, mais sur le moment, c'était décevant.
Oui.
Autre film qui aura une suite, mais bon, là, on a un peu moins peur.
On en avait déjà un petit peu parlé, il me
semble. Oui, A Quiet Place, qui aura une suite, c'est John Krasinski qui est en train de l'écrire.
Oui.
Et ça va être une suite, hein. On va pas être dans le passé, dans ce cas-ci.
Mais ça... Je sais qu'ils ont évoqué plusieurs possibilités. Et alors, un prequel en était une, voir les personnages avant ce qui s'est passé. Mais je pense que l'intérêt serait assez limité. Du coup, est-ce que ce serait une suite directe, dans le sens où on repart avec les mêmes personnages, ou est-ce que ce sera un film dit d'univers, c'est-à-dire même type de monstre, même univers, mais autre histoire avec autre personnage.
D'autres personnes coincées dans un supermarché, j'en sais rien.
C'est une bonne question, mais c'est clair qu'avec ce qu'il a créé, il y a moyen de faire. Enfin, il y a beaucoup de potentiel, donc on peut aller dans pas mal de directions avec ce genre de choses. Donc, moi j'ai adoré Quiet Place, donc je suis assez curieux.
Je suis plus partant pour l'univers, à mon avis, étendu.
Ouais, à la Cloverfield.
Voilà, ils vont prendre parce que ça m'étonnerait que
Emily Blunt revienne. On reparlera de Cloverfield un peu plus tard dans ce podcast.
Ça m'étonnerait que lui et sa femme reviennent pour le 2 devant la caméra. Ils ont plus de projets, ils bossent plus à gauche à droite pour l'instant. Donc...
Faut voir.
Mon avis, non. Mais bon, gros succès au cinéma, donc pourquoi pas.
Oui, bah, d'ailleurs, je dis, on va reparler. Enfin, oui, si, on en reparlera plus tard de Cloverfield.
Parlons de Kursk maintenant.
Kursk. Oui.
Film qui parle du naufrage sous-marin nucléaire qui s'appelle Kursk, oui, le Kursk, hein, K-141 pour être plus précis, qui est survenu en fait il n'y a pas si longtemps, hein, en août 2000,
oui.
Dans la mer de Barents. C'est pour ça que, en tout cas, moi je ne me rappelle pas de l'histoire. Enfin, j'étais très jeune, hein, 9 ans. Oui.
Écoute, moi je venais tout juste d'avoir 9 ans aussi. C'était voilà. Le lendemain de mon anniversaire. Voilà. Comme ça, tout le monde le sait.
On sait que c'est le 11 août. Merci. Voilà. Voilà, c'est très bien. Et donc là, du coup, bah, concrètement, il y a un sous-marin qui, suite à un défaut technique à l'intérieur même du sous-marin, lorsqu'il est en train de faire un essai de lancement de torpille, bah, concrètement, il pète, quoi. Oui. Il pète et il se retrouve à plus de 100 mètres de profondeur. Alors forcément, il y avait quoi, plus de 113 personnes à bord, quelque chose comme ça, mais une grande partie d'entre eux sont morts, mais une petite partie de l'équipage est prisonnier.
Il y en a qui sont morts au moment de l'explosion.
Oui, directement, ça, même pas de question. Et puis il y a une partie, genre une vingtaine de personnes qui sont à l'arrière du sous-marin, qui eux sont toujours protégés par des murs étanches. Mais pour longtemps ou pas, c'est la question du film. Et en fait, la question du film va surtout, l'intérêt du film va surtout se diriger en fait sur les discussions qui se passent sur Terre.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait pour le sauver? Qui intervient? Est-ce que les Anglais interviennent? Est-ce que les Russes restent tout seuls? Est-ce que voilà? Est-ce que qu'en pensent les familles? Est-ce que les familles sont scandalisées? Le secret autour de l'opération en Russie? Enfin, soit vous avez déjà compris un peu le film. C'est surtout un dilemme politique et. C'est ça aussi la question que je voulais te poser. Moi, je n'ai pas vu le film. Mais est-ce que le film se concentre sur les gens à l'intérieur qui veulent survivre ou se concentre plus sur, en effet, les discussions politiques qu'ils peuvent avoir en dehors?
Il y a tout. Et c'était essentiel pour pouvoir faire le film parce que si Thomas Vinterberg, parce que c'est quand même Vinterberg qui réalise, s'était concentré sur l'un ou l'autre, ça aurait été un peu... Enfin, c'était pas possible de faire un film juste sur ça, je pense.
Bien sûr, moi j'avais vu des critiques en tout cas qui disaient principalement que c'était dommage, que le film se concentrait peut-être trop sur les discussions internationales entre guillemets et pas assez sur.
Mais.
Quel est ton avis?
Peut-être, là-dessus? Je sais pas. Moi je trouve que ça rend les choses un peu plus intéressantes parce que.
En fait, il y a trois ans.
Je me souvenais pas de l'histoire, mais je savais quel était le destin de ces gens. Donc, peu importe, d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas un spoiler, on pourrait le dire, mais donc,
dis-le,
peu importe, oui, ces gens sont morts.
Oui, ils sont tous morts.
Il n'y a eu aucun survivant. Et je trouve que ça rend la chose d'autant plus intéressante de voir comment ça se fait qu'il n'y a eu aucun survivant, alors qu'il aurait pu y en avoir quand même un petit paquet.
Et, une vingtaine.
Au moins, oui. Parce que... en fait, le matériel russe étant vieillissant, en fait, il n'avait plus les capacités matérielles de faire
ce sauvetage.
Et alors, évidemment, l'OTAN, etc., savait ce genre de choses. Et donc, certains se sont proposés pour donner leur aide.
En mode grand sauveur, quoi.
Voilà, mais c'est une question d'honneur. Là, c'est le début... En plus, c'était le début du premier mandat de Poutine, si je me souviens bien.
Ouais.
Aller demander l'aide des British.
Et d'ailleurs, il faisait un exercice militaire d'envergure dans la mer où il y avait des gros bateaux et tout le bordel.
Oui, c'était vraiment un gros exercice militaire.
Donc il voulait montrer un peu qu'ils étaient forts, quoi.
Tout le monde n'était pas, pas au courant de tout. Il ne savait pas qu'il y avait qu'un sous-marin nucléaire faisait partie de l'exercice. Donc, donc c'était assez. Piégeux comme situation.
Un peu le foutoir, quoi.
Oui, un peu le foutoir. Mais surtout piégeux d'un point de vue politique, pour les instances tant militaires que politiques, donc, qui ont voulu garder la face, quoi. Et donc, comment est-ce que... Enfin, quelle a été la résolution finale? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça? C'est ce que montre le film. Il montre aussi, évidemment, les familles qui étaient dans l'inconnu total... ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Des bruits de couloir de temps en temps et qui ont fait que les gens sont un peu inquiétés. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas grand-chose. Et puis alors les réponses, quand il y avait des conférences de presse ou en tout cas des conférences pour les familles, tu voyais clairement que les hauts commandements militaires se foutaient un peu de la gueule du monde, quoi. Donc,
ouais, bon, sacrifice humain.
C'est une situation assez compliquée.
Tout à fait.
Mais c'est un film qui est assez... qui est relativement classique, mais qui est fait par une super bonne équipe. Thomas Vinterberg, à la réalisation, c'est quand même pas rien. Et il a un excellent chef opérateur aussi, Anthony Dodd-Mantel. Alors, pour avoir pu un peu les observer sur le plateau de tournage, c'est vraiment... ces gars sont... C'est des putains de professionnels. Les mecs, ils ont des idées quand tu les voyais chercher un peu parfois. Parce que t'as beau préparer un film avec un storyboard, etc. Une fois que t'es sur le plateau, à un moment, tu vois, ah oui, ça, on voulait faire liberté, ça va peut-être pas fonctionner exactement. Par contre, ah, ça peut être super bien. Et donc, quand tu les vois rechercher comme ça, c'était assez intéressant. Surtout que j'ai vu les toutes premières scènes, donc l'explosion dans le sous-marin, etc. Tu voyais que le plateau bougeait et tout. Enfin bref, c'était assez... vraiment, c'était impressionnant. Donc, c'est... Voilà, tout ça pour dire que c'était une... Ce sont des mecs quand même hyper talentueux qui l'ont fait. Donc, visuellement, il y a quelque chose. Après, bon, l'histoire... elle a...
C'est quoi le problème? C'est qu'on connaît la fin, donc mais... du coup, elle n'est pas...
Non, moi ça m'a pas gêné de connaître la fin avant, mais disons qu'elle a ses limites, quoi.
Ouais, par contre, on a peut-être oublié de préciser, je crois qu'il y a trois perspectives dans le film. Il y a la perspective d'une des personnes à bord, c'est Mathias Konartz.
Ouais.
Perspective de Léa Seydoux, qui est sa compagne, je suppose,
oui,
c'est ça.
La femme de Konartz.
Et puis Colin Firth, qui est dans l'armée russe, armée anglaise, qu'est-ce qu'il fait lui?
Il est dans. Alors, je sais, c'est une instance. Relativement neutre, entre guillemets, je crois, ou anglaise, qui s'occupe de marine et plus particulièrement de sous-marins. Mais
d'accord,
je ne sais plus s'il fait partie d'une instance neutre, style en gros, OTAN, c'est etc., Colin Firth ou s'il fait vraiment partie de l'armée anglaise, mais peu importe, c'est l'aide internationale de manière générale.
Oui, donc c'est lui qui interprète la personne qui veut aller aider le gouvernement russe, quoi, mais qui se fait rembarrer, je suppose. En gros, voilà. Bon, dans ce cas-ci, ben voilà, c'est une histoire très intéressante qui est vraiment qui vaut la peine d'être en tout cas lue, vue. Enfin, c'est une histoire très intéressante.
Oui, ça c'est sûr.
Qui réussit pas totalement sa mise sur grand écran, disons ça comme ça.
Bah, disons que ça aurait mérité peut-être. Qu'est-ce que ça aurait mérité exactement pour rendre la chose encore un peu plus attrayante? C'est une bonne question. Peut-être se recentrer sur certaines choses et peut-être pas avoir le point de vue vraiment de tous, mais dans ce qu'il essaie de faire, il le fait assez bien. Et ça vaut 2 étoiles.
Voilà. C'est l'émission 2 étoiles aujourd'hui. Hein,
oui, on peut pas avoir des émissions 3 étoiles tout le temps.
Ou 4, même 5 l'autre jour.
Ou 4 ou 5.
Encore le point news avant qu'on parle des deux derniers films, enfin du dernier film de la semaine, c'est Overlord, mais un tout petit peu de casse-noisette hein, rapidement pour que tu lis tes impressions. En termes de news, on a la suite du film Don't Breathe. C'était le film où, si je me rappelle bien, il y avait un homme qui était aveugle.
Ouais.
Et quelqu'un venait cambrioler sa maison.
Exactement.
Un groupe venait cambrioler sa maison, deux jeunes, quoi. Et il se retrouvait pris au piège avec un homme, en fait, qui était complètement soit entraîné à tuer ou je ne sais quoi, mais qui n'allait pas leur faire passer un bon quart d'heure. Ça, c'est
sûr. C'était un ancien militaire.
Voilà.
Effectivement. Et c'était assez impressionnant. Très très bonne mise en scène.
Et c'est Fede Alvarez qui écrit le scénario.
Oui. Réalisateur uruguayen qui avait déjà fait le premier.
Tout à fait. Et donc c'est ça, c'est lui qui fait aussi Millennium. Hein,
oui, c'est ça, c'est lui qui a fait le prochain Millennium. Avec Claire. J'ai déjà vu et dont on vous parlera dans 2 semaines, ouais, 3 semaines.
Tout de suite en tout cas. Avec Claire Foy. Et donc c'est peut-être lui qui va réaliser le 2 du coup, vu que c'est lui qui écrit le scénario. Mais ça, on ne sait pas encore.
Mais oui, alors en fait, il y a quelques mois, il avait fait un sondage sur Twitter où il demandait aux gens ce qu'ils voulaient avoir en premier. Une suite à Don't Breathe. Ou une suite à Evil Dead 2, parce que c'était déjà lui qui avait fait le remake d'Evil Dead il y a 5 ans. Évidemment, les gens voulaient en grande majorité Evil Dead 2, mais en tout cas, les gens sont quand même assez intéressés par avoir une suite à Don't Breathe. Donc, clairement. Pourquoi pas. Moi, personnellement, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Je trouve que la mise en scène était vraiment très très bien, un gros gros travail, il y avait des très bons plans séquences, etc. Et au niveau des angles, et, etc., c'était vraiment très intéressant. Donc je suis assez curieux de voir une suite à Don't Breathe, même si a priori c'est un film qui n'en nécessite pas vraiment, mais pourquoi pas.
Bah, disons-le clairement, les films d'horreur, j'ai l'impression, c'est un peu...
Enfin, c'était pas un film d'horreur, hein. On était plutôt dans le thriller.
Petit budget, avec des gens qui se tapent dessus dans un endroit confiné où ça peut faire peur, où ça peut parfois être dans le suspense. C'est des films, clairement, qui lancent des carrières. On a vu ça notamment avec John Krasinski qui a fait A Quiet Place. On a aussi fait D'Alvarez avec Don't Breathe. On a aussi Andy Muschietti qui avait fait ça. Bon, ça, c'est pas vraiment un film... Ouais, c'est un film d'horreur, soit. Mais est-ce qu'on peut encore dire que c'est un film d'horreur ? Je sais pas, mais ça lance des carrières. D'ailleurs, Andy Muschietti qui va réaliser La Machine à remonter le temps.
Oui.
C'est DiCaprio qui produit le projet. C'est bien sûr basé sur le roman de Wells. Hein.
Ouais. Et ça, c'est un projet qui a été annoncé donc, 2 jours avant une autre annonce, celle de l'adaptation du manga L'Attaque des Titans. Donc, il a deux projets. L'Attaque des Titans sera produit par David Heyman, le producteur de, entre autres, d'Harry Potter et des films de Chris Columbus.
Oui,
sera aussi produit par Barbara Muschietti, la sœur d'Andy. Et par Massi Oka. Est-ce que ça te dit quelque chose, Massi Oka ?
Pas du tout.
C'est Yatta ! Dans Heroes. Voilà.
Ok.
C'est le petit japonais qui fait. Oui, c'est lui. C'est lui.
Ouais, j'ai toi, très t'adores bien Heroes.
Ah oui, c'est vrai. Heroes.
On va en parler.
Et donc, ils seront à 3 à produire ça. Donc, Andy Muschietti, il a.
C'est le nouveau protégé de Warner Bros.
Deux nouveaux gros projets.
C'est Warner Bros. À chaque fois.
C'est deux projets Warner Bros. Il en a aussi un troisième avec Sony, Robotech. Alors, c'est un projet qu'il avait déjà. 3 ans. Je sais que j'en ai parlé avec lui il y a 3 ans. Et puis le projet lui avait été retiré. C'était James Wan qui l'avait pris parce qu'il sortait du succès de Furious 7. Il avait fait plus d'un milliard. Donc forcément, boum. Et je sais qu'Andy a récupéré le projet un peu après. Mais donc, alors, 3 projets, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il va faire en premier ? Je ne sais pas. Parce que quand on a annoncé l'attaque des Titans il y a quelques jours... on pensait que ça serait celui-là qu'il allait faire juste après avoir terminé ça 2. Mais maintenant, voilà qu'on a annoncé aussi La Machine à remonter le temps. Qu'est-ce qu'il va faire en premier ? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait 3 projets assez intéressants.
Ah oui, clairement, valeur montante de Warner Bros. Hein, Andy Muschietti, c'est une star montante, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Donc c'est bien, toi qui l'avais vu en tout cas à ses débuts, c'est marrant de voir le...
Oui.
Quelqu'un qui monte comme ça, c'est chouette. Et bon, on en avait déjà un tout petit peu parlé, mais maintenant c'est officiel, ça a été confirmé sur les réseaux sociaux, donc du coup c'est officiel.
De belle manière d'ailleurs.
Ouais,
Bad Boys,
Bad Boys 3. C'est quoi encore ? Bad Boys for Life.
For Life.
Ouais, c'est ça, Bad Boys for Life, c'est ça. Le troisième film qui est réalisé par 2 Belges, Adil et Bilal, qui ont fait Black, qui ont fait normalement Pas de Serre aussi.
Ouais.
Avec Will Smith et Martin Lawrence. Martin Lawrence, ça fait un petit temps qu'il n'a pas tourné. Hein. Donc ça va être marrant de voir un peu...
Je suis sûr que si on va voir sa film, à mon avis, il doit avoir plein de DTV comme Nicolas Cage. Et,
genre Babysitter
2. Et les frères Wayans et ces trucs-là. Ces gars-là, mais... Bon, je n'ai pas été vérifié.
Écoute, pourquoi pas.
Martin Lawrence, voilà.
Ça peut être très casse-gueule comme projet quand même. Hein. Mais ouais. Bon, pourquoi pas.
Bah, surtout que ça fait des mois et des mois qu'on en parle, donc
le scénario est passé dans toutes les mains.
Il était temps que ce soit officiel. Hein.
C'est ça. Parlons du dernier film de la semaine, des derniers films de la semaine, puisqu'il s'agit de Overlord et de Casse-Noisette. On commence par pas du tout le même genre de film. Hein, Overlord, c'est la veille du débarquement. Un groupe de parachutistes est largué en France occupée alors qu'ils luttent pour accomplir ce qui ressemble à une mission impossible. Ils tombent sur un laboratoire secret dans lequel sont menées des expériences surnaturelles aussi étranges que terrifiantes. On dirait le synopsis de Call of Duty Zombie. C'est un peu ça, hein.
Ça doit être ça.
Ça doit être ça. Donc c'est en gros une chasse aux zombies dans un laboratoire dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça ?
C'est pas exactement ça, mais en fait, tout à l'heure j'ai dit qu'on allait reparler de Cloverfield. Et c'est maintenant qu'on en reparle parce qu'en fait, on a longtemps cru qu'Overlord était un film de l'univers Cloverfield. Donc comme Cloverfield, 10 Cloverfield Lane, et puis le troisième qui était sorti directement sur Netflix, là, Paradox, je ne sais plus quoi.
Oui.
Et donc on pensait que c'était le quatrième, mais non. Parce que c'est produit
par Bad Robot.
Voilà, Bad Robot. Donc, je crois bien que c'est Bad Robot. Et ici, on est quand même plus dans le film Seconde Guerre mondiale quand même. C'est-à-dire que ces types ont une mission, ils doivent détruire une tour, sans quoi le débarquement en Normandie ne sera pas possible. Donc, ils doivent vraiment détruire cette tour. Et dans ce camp, il y a ce fameux laboratoire dans lequel sont réalisées des expériences un peu particulières.
Ouais.
Toujours avec ces fantasmes du Troisième Reich immortel, la avec une mortelle. Armée de malades.
Oui, tout à fait. Et donc, on va créer des nazis zombies.
On va dire ça comme ça.
Oui.
Avec un peu des nazis zombies. C'est une façon de présenter les choses. Et donc, on est clairement dans le film de genre pur et dur, avec tout ce qu'on aime, des héros charismatiques. D'ailleurs, le rôle principal est interprété par Jovan Adepo, qu'on a pu voir entre autres dans Mother et dans Fences, le film de Denzel Washington, et dans The Leftovers.
Ouais.
Y a aussi Wyatt Russell, qui n'a pas fait grand-chose de connu. Très honnêtement, mais ce gars a une gueule assez particulière. Il ressemble un peu à Michael Pitt, comme ça. Du coup, pendant tout le film, je me suis dit, est-ce que c'est Michael Pitt ?
Ça sonne quand même beaucoup.
Pas Michael Pitt.
Ça sonne quand même beaucoup des TV, ce que tu es en train de me dire. Là. Histoire un peu bancale.
Il y a ce genre de choses qui sortent, qui sortent en des TV, c'est vrai. Mais en même temps, le cinéma de genre est tellement mal reconnu, ça en est triste. Donc, non, c'est très bien que ça sorte en salle. Surtout que le méchant, c'est un acteur que j'adore particulièrement, c'est le Danois Pilou Asbæk, qu'on a vu dans A War, qu'on a vu dans Game of Thrones, qu'on a vu dans Ghost in the Shell. Donc, excellent acteur. Et ce qui est très bien dans ce film, alors c'est pas ouf, hein, c'est pas le film de l'année, hein, mais c'est un putain de bon film de genre, avec des zombies qui se font dézinguer, des nazis qui se font dézinguer, et la mise en scène est vraiment top. C'est un gars qui s'appelle Julius Avery, qui a réalisé le film, et qui, on en a entendu parler il y a quelques jours, parce qu'il a été annoncé comme étant le réalisateur du prochain film Flash Gordon. Donc voilà, la première scène, c'est une scène où ils sont dans un avion. Il traverse l'Atlantique pour aller être parachuté en France.
Derrière les lignes ennemies.
Behind the enemy lines.
Oui, c'est ça.
et cette scène est vraiment... elle est super bien. Et direct, ça te met dans le bain, quoi. T'es un bon réalisateur, une bonne histoire. Voilà.
Un truc de genre...
Des nazis, des zombies.
Quand le genre est bien fait, c'est ça. Oui,
bien sûr.
T'en as pour ton argent.
Donc quand les distribs et les prods se mettent à sortir ce genre de choses, moi je dis oui, je dis un grand oui.
Et donc tu dis...
2 étoiles et demie.
Non, ça n'existe pas, ça.
Ouais, je sais. Non, mais 2, parce que ce serait malhonnête de donner plus, mais...
Pour soutenir le genre.
Allez, 3 étoiles pour soutenir le genre.
Pour soutenir le genre. On voit que tu travailles au bif, toi.
C'est bon.
Une rapide news en fait, avant de passer à Casse-Noisette, on était un peu rapide dans les news.
On a oublié quelque chose ?
Oui, parce que c'est pas une grosse news, hein, tout est truc. Hein. C'est pour dire qu'en fait, Netflix est en train de changer un peu son fusil d'épaule, doucement, hein. Attention, très doucement.
Oui, non, ils changent pas leur fusil d'épaule.
Non, mais ils sont en train de se rendre compte que concrètement, s'ils veulent continuer à apaiser les tensions qui existent avec les festivals de cinéma et le monde du cinéma de manière générale, ils devraient peut-être sortir sur grand écran leur film. Ne fût-ce que 2-3 jours hein, pour satisfaire tout le monde.
Je crois que c'est plutôt pour satisfaire certains réalisateurs. Parce que quand tu vois les noms aussi qu'ils ont, je suis en train de préparer. J'ai dit qu'on ferait une spéciale Netflix un jour. Je suis en train de préparer un peu ça. Et quand tu vois la liste des réalisateurs qui ont des projets avec eux, tu te dis ah ouais, ok, d'accord.
Oui, d'ailleurs, en news, c'est pas du tout news cinéma, mais il y a Henry Cavill hein, qui est apparu dans le
The
rôle
Witcher.
De...
Ouais, ça promet. Ou pas.
Dégueulasse. The Movie.
Oui, donc, ils vont sortir quelques films en salle.
Oui.
Il y a eu 22 July qui est sorti le 10 octobre.
Ouais.
Il y aura Roma hein. Qui va sortir donc au Palace en Belgique. Hein, c'est une exclusivité. Mais ils vont sortir aussi La Ballade de Buster Scruggs, le film de Frère Cohen, et Bird Box de Suzanne Beer dans quelques cinémas... aux États-Unis, en Angleterre, en Italie. Enfin voilà. Quelques territoires. Mais alors, Est-ce que c'est un vrai changement de stratégie ou non? Moi, je pense que c'est juste vraiment pour satisfaire quelques réalisateurs et peut-être adoucir certaines tensions avec la
Oui,
France.
c'est ça, je pense clairement pas que ce soit. Oui, je pense que c'est plutôt.
Mais en France, il n'y a rien qui est prévu, hein, parce que pour l'instant, c'est pas possible.
Ouais,
Mais
non,
bon,
je
on
sais,
en
mais
reparlera
j'aimerais
une
bien.
autre fois
Ouais,
de
c'est
leur
ça.
chronologie des médias, parce que c'est assez complexe.
On repasse au cinéma avec un
On repasse au
film
cinéma?
qui date de la semaine passée, mais
Oui.
qui est encore sur nos écrans d'ailleurs, hein, qui est toujours de
Bah
saison, n'est-ce
oui,
pas? Parce qu'il commence à faire
il vient
froid.
de sortir, ça fait une semaine,
Commence
donc.
à faire froid, il
Mais
commence à.
alors déjà, première remarque, pourquoi sortir ce film maintenant, début novembre?
Oui, j'aurais fait ça en décembre, moi.
Mais oui, parce que
Film de Noël, quoi.
mais
Casse-Noisette
c'est un vrai
et
film de
Les
Noël.
Quatre Royaumes, attention.
Ouais.
Voilà, il n'y a pas plus Noël que ça.
Ben non, je comprends pas. Alors le film de Noël de Disney, ce sera Mary
Mary
Poppins.
Poppins, oui.
Et je trouve que Casse-Noisette aurait été a priori mieux pour ça.
Vous auriez pu faire l'inverse.
Ben oui.
C'est pas grave que
Mary
Mary
Poppins
Poppins
à
sorte
l'automne
maintenant,
et
c'est ça.
à la Toussaint et puis Casse-Noisette en décembre, ça aurait été mieux parce que ici ça se déroule à Noël, ça se déroule le jour du réveillon,
Ah
donc c'est
oui, ok,
difficile de faire
carrément, quoi.
plus. Bah oui. Et donc c'est une.
It's the night before Christmas.
C'est exactement ça. Ici ça se déroule donc c'est une adaptation du conte d'origine
Oui.
duquel était déjà tiré le ballet de qui?
J'ai pas envie de me tromper.
Vas-y, dis.
Tchaïkovski?
Bravo, bravo.
Eh!
Tu connais tes classiques. C'est
Eh!
bien, c'est bien.
Quand même.
C'est bien Tchaïkovski qui a fait Casse-Noisette. Et d'ailleurs, alors même si le film ici est directement adapté du roman, enfin du conte, pardon, il y a aussi un bel hommage à Tchaïkovski qui est dans le film, parce qu'il y a les musiques qu'il a composées, et il y a aussi un moment, il y a un vrai ballet dans le film. Donc c'est assez joli. Donc de quoi ça parle pour ceux qui ne connaîtraient pas Casse-Noisette? C'est Clara
Oui, mais
qui
attends,
doit.
donc c'est
Ou.
Casse-Noisette et les Quatre Royaumes.
Oui, les quatre royaumes.
Donc, c'est une adaptation, comme tu dis, mais bon, c'est pas exactement le ballet, quoi, tu vois. L'histoire de
Non, mais
Casse-Noisette n'est
alors
pas la même
le
que le ballet.
ballet n'est pas exactement le conte
Voilà,
d'origine,
donc
hein.
c'est une alternative.
Ici, on
En
est plus près
gros,
du conte que du ballet,
c'est
hein.
ça. Donc, si vous avez vu le ballet, ne pensez pas que vous connaissez l'histoire de Casse-Noisette et les Quatre Royaumes.
Non.
Voilà. C'était ça, le disclaimer.
Mais oui, parce que ici, en fait, Clara, c'est une petite fille, elle a perdu sa maman, machin, et elle reçoit un œuf le soir de Noël, enfin, du réveillon de Noël,
Un Kinder.
mais elle n'a pas la clé. Et elle ne veut pas aller à la fameuse soirée, c'est la soirée de son parrain. Mais lors de cette soirée, tous les enfants reçoivent un cadeau. Et pour trouver leur cadeau, ils doivent suivre un fil sur lequel est inscrit leur nom. Et en suivant son fil, Clara débarque dans un monde magique.
Narnia.
Et au bout, bam, la clé. Et puis alors là, elle va découvrir un monde qu'elle ne connaissait évidemment pas, mais que
Un
sa
ou quatre?
mère connaissait. Sa mère connaissait ce monde.
D'accord.
Enfin, donc il y a quatre royaumes qui sont répartis. En fait, tu as l'impression de voir une map de jeu. C'est comme si c'était un énorme cercle. Tu en as un dans chaque coin, entre
Non, non,
guillemets, sauf qu'il n'y a pas de
c'est
coin dans
pas
les
une carte
cercles.
d'un jeu, c'est une carte de Disneyland Paris.
Voilà, si tu veux. Et au milieu, tu as un château
Oui, mais c'est
qui les
ça.
gouverne tous.
Oh là
Un
là.
château pour mieux. Bref, tu as
L'araignée.
saisi l'idée.
Oui, tout à fait.
Et donc voilà, c'est un pur film de Noël, 100% Disney, même s'il n'y a pas énormément de. Et tant mieux, parce que je ne suis pas fan de gens qui chantent tout le temps.
Oui,
Hein,
on
ça,
n'est
c'est
pas dans la
bien.
Belle et la Bête, quoi.
Non. Non, ça, vraiment, tant mieux. Du coup, c'est assez sympathique à regarder. Il y a une belle
C'est presque un film
direction
d'aventure, quoi, du
artistique.
coup. Ouais, c'est ça.
Oui, c'est le truc que t'aimes regarder quand t'es gosse. Et j'ai pris du plaisir à regarder ça. Je me suis pas emmerdé.
Un film familial, quoi, avec un grand
Mais
F.
c'est
C'est
exactement
ça.
ça. C'est le pur film de famille, avec le paquet de popcorn, les enfants, et tout le monde passerait un bon moment. Petit disclaimer sur les effets spéciaux qui sont pas toujours ouf.
Disney, j'ai l'impression que. Je sais
Mais
pas qui fait les effets spéciaux pour eux, mais c'est jamais
non, alors,
dingue,
non,
hein.
globalement c'est pas mal,
C'est beau,
mais
mais c'est
certains trucs
pas.
de temps en temps tu fais.
Ouais, tu sens que c'est un peu genre la
Tu
neige
frissonnes
et
un
tout.
peu. Ouais.
Tu vois, il y a un peu de.
Et pour ceux qui sont très habitués aux histoires de contes, etc., tu connais tout
Et comment
avant.
est la petite Mackenzie Foy?
Elle est très très
Qui
bien,
maintenant est plus petite, elle a
cette
quoi, 18 ans?
Mackenzie Foy qui était dans Interstellar, si je ne
Oui,
m'abuse.
tout à fait.
Elle faisait Jessica Chastain jeune. Elle est très très bien. Tout le cast est très bien. Je connaissais pas tous les acteurs. Morgan Freeman, tu le vois 5 minutes au début.
Oui.
Keira Knightley, je l'aime toujours pas, mais c'est pas grave. Elle fait le job.
Ressemble un peu à Helena Bonham Carter dans celui-ci.
Ouais, il y a un petit côté Helena Bonham Carter.
Elle sort un peu d'un film de Tim Burton, là, tu dis.
Hélène Mirren est très bien aussi. Ouais, enfin, ils sont tous bien, voilà.
Ils font le job, quoi.
C'est Disney.
Tu regardes la caméra, tu réagis, et voilà, quoi. C'est bon. C'est Disney, quoi.
C'est Disney.
On va pas leur demander de pleurer, de parler de drame familial, comme dans Un amour impossible, n'est-ce pas ?
Nanny, hein.
Donc voilà, Casse-Noisette, du coup, 3 étoiles, si je me trompe pas.
Allez.
Mais je sais pas,
c'est Noël. C'est Noël, 3 étoiles.
Voilà, film de Noël, bonne ambiance, qu'est-ce que tu veux. On termine cet épisode en parcourant toutes les sorties de la semaine. Un amour impossible, on
oui,
en a parlé.
Il y en a beaucoup, j'ai pas tout vu.
2 étoiles, Genesis 2.0 documentaire.
Alors c'est un truc sur les mammouths. En gros, des scientifiques qui ont fait des recherches,
ouais.
Pris des ossements de mammouths pour, afin d'étudier le.
Pourquoi pas
le, voilà que le mot m'échappe, mais voilà, t'as compris.
L'évolution.
Oui, en gros.
La
oui.
Conservation, j'en sais rien.
Voilà, voilà.
Ok, McQueen, un documentaire.
Sur Alexander McQueen, le designer,
ouais.
qui s'est suicidé il y a quoi un peu moins de 10 ans maintenant.
Mm-hmm.
Voilà, documentaire sur lui.
Overlord, on en a parlé, c'est 3 étoiles parce que ça fait du bien de voir un film de genre au cinéma qui est bien fait.
Oui.
Disons-le. Seule la vie, Life Itself, avec Oscar Isaac et Olivia Wilde et Samuel L. Jackson.
Et Antonio Banderas.
Et Antonio Banderas, qui est un film qui raconte l'aventure d'une vie. Voilà, c'était ça, si vous voulez savoir. On n'en sait pas plus. Weldy.
Film tunisien.
Film tunisien, on ne sait pas plus, on n'en dit pas plus.
Si, c'est un film qui parle de... D'un enfant qui va partir en Syrie. Et donc, la réaction des parents, etc. etc.
Ok.
J'ai beaucoup aimé le premier film du réalisateur Mohamed Benatia. Donc, je suis assez curieux de voir celui-ci.
C'était quoi le premier film, si tu te rappelles?
Ça s'appelait Eddie. D'accord. Il avait eu le prix du meilleur acteur à Berlin.
Bah, après voilà, donc, après Eddie, voilà Weldy.
Voilà, exactement.
Koursk. On a donné 2 étoiles à Koursk de Thomas Vinterberg, excellent réalisateur, qui dans ce cas-ci a relaté un drame historique. Et puis, Lazzaro Felice, heureux comme Lazzaro en français, c'est ça le titre.
Oui.
Film un peu... Un tout petit peu what the fuck, hein, mais un film d'auteur quand même qui se regarde, qui s'est interpellant.
Tout oui, tout petit peu. Surtout qu'il y a Sergi Lopez dans la deuxième partie.
Voilà. Et ça...
Ça c'est bien, moi j'aime bien Sergi Lopez. Je suis content quand je vois Sergi au cinéma.
Un petit teaser pour la semaine prochaine, comme ça vous ne partez pas les mains vides. On va parler de...
Oui, on n'aura pas vu beaucoup de choses d'ici là. Hein,
non, mais bon, voilà, c'est la vie.
Mais il y a quand même 2 grosses sorties.
Suspiria hein, de Lucas Guadagnino.
Luca.
Lucas Guadagnino, c'est sympa quand même. Luca Guadagnino qui donc refait le remake du film de 1977.
Ouais.
Et qui, c'est son film... Le film, pardon, qui suit Call Me By Your Name. Alors là, on ne peut pas être plus différent en termes de style. C'est pas mal pour un réalisateur.
Oui, alors afin que les gens n'interprètent pas mal ce que tu viens de dire, ce n'est pas la suite
de
Call Me By Your Name.
Pour lui, en tant que réalisateur, c'est le deuxième projet.
Voilà, c'est le premier projet qu'il fait après Call Me By Your Name.
Et c'est très différent.
Effectivement, on ne peut pas faire plus différent que ça.
Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, on en parlera.
Oui, on parlera effectivement de ces 2 films-là. Et d'un troisième.
Ça. Et The Wife, avec Glenn Close.
Oui.
Grand retour de Glenn Close au cinéma, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu.
Ça fait longtemps. Je me demande si la dernière fois que je ne l'ai pas vu, c'était dans un film qui s'appelle Mr. Nobs, qui doit dater d'il y a, à mon avis, 4-5, peut-être 6 ans.
Écoute, ce sera l'occasion de voir comment elle se porte.
Oui.
D'ici là,
on aura 3 films, mais je pense qu'avec Suspiria, on pourra parler du côté remake, et donc parler un peu de l'original, des différences, etc. Donc, et puis les Animaux Fantastiques, on pourra parler un peu plus longuement de l'univers étendu d'Harry Potter.
Oui,
je pense qu'on aura des choses à dire, même si on n'aura que 3 films. Hein.
On va surtout pouvoir parler de Johnny Depp.
Oui, même si on ferait bien de ne pas parler de Johnny Depp.
Oui, je sais, mais en tout cas, le studio a décidé de le laisser. Donc
voilà.
C'est ce que je te dis.
Exactement.
Et The Wife, comme on l'avait dit, Glenn Close, qui a pas mal d'Oscar buzz pour la prestation de Glenn Close. Donc, on va en parler aussi.
Ce serait une bonne semaine. Ça va être intéressant au niveau débat.
Tout à fait. D'ici là, on se dit à la semaine prochaine.
Ben oui, moi je serai là. Tu seras là ?
Je serai là.
Bah alors, si on est tous les deux là, c'est parfait.
C'est déjà ça. Hein. Des bisous. Ciao, ciao.
Ciao, des bisous.